Merci beaucoup, Tim, pour cette annonce chaleureuse, intrigante. C'était cool. Merci. J'ai traduit ce que je vais dire aujourd'hui en anglais, en australien, en américain aussi. Donc, si vous avez des portables, vous pouvez trouver ça. Je crois que Kristen, tu peux envoyer la traduction à nos amis américains. Et on est vraiment content que vous soyez là. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir ce soir. Vous pouvez entendre un petit accent chez moi, c'est un accent australien, et on a passé 2 mois en Australie cet été, juillet et août, et on a vu nos familles et mes sœurs, et moi je suis fils aîné de ma famille, et je me suis rendu compte que mes sœurs sont beaucoup plus cool que moi, en fait. Beaucoup plus cool, ils ont les coiffures, bah, déjà ils ont les cheveux, ok. Mais ils ont des vêtements, ils sont toujours, ils ont un style. Et quand je me regarde, je pense, mais qu'est-ce qui se passe avec moi, en fait? Mais c'est un peu bizarre, parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'ai pensé qu'elle n'était pas cool. Pas du tout, en fait. Et en fait, je voulais pas être vu avec eux. Donc, je les ai ignorés tout le temps, en fait. Comme si elles n'existaient pas. Et ça, c'était pas cool. Et plus tard, je me suis rendu compte, en fait, que je les ai blessés en faisant ça. Et j'ai blessé mes parents aussi, parce que ils étaient les filles de mes parents, évidemment. Et donc, j'ai culpabilisé. Et donc, j'ai une question pour vous tout au début. Comment gérez-vous la culpabilité? Comment gérez-vous vos fautes, vos échecs? Votre honte, vos regrets. On a tous été blessés et on a tous blessé d'autres. Et certaines personnes parmi nous ont une sensibilité excessive, peut-être, qui peut mener à une culpabilité aiguisée, toujours. Donc, c'est toujours ma faute, c'était moi, pourquoi j'ai fait ça tout le temps, on est un peu comme ça. Mais d'autres sont un peu moins sensibles comme ça. Ils sont presque inconscients de leur faute. Ils évitent de confronter ce qu'ils ont fait. Ils disent, oh, bon, c'est pas grave, ça. Faut vivre. Ils vivent un peu dans le déni. Denis, comment gérez-vous vos regrets, vos fautes? On continue dans notre série sur l'évangile de Marc. On est là, et où Jésus a dit et fait beaucoup de choses pendant ce temps. Mais lorsqu'on arrive à la fin de son ministère et de sa vie, on voit que ce dont on a le plus besoin, c'est le pardon. Et c'était la chose la plus importante pour Jésus aussi. Et donc, on va se plonger dans ce moment le plus dur de sa vie. En fait, c'était le pire pour Jésus, c'est le moment. Et on voit pourquoi il nous apporte un pardon et une paix profonde, même face à nos échecs, nos péchés. Et donc, on a 3 épisodes dans notre texte d'aujourd'hui. On aura donc 3 lectures et j'interviendrai après chacune d'entre elles. Et donc, Nour va la lire. C'est pas Dieu, si tu vois personne, mais tu entends quelque chose. Ça va être Nour. Et Jésus, juste pour vous donner le contexte, Jésus est maintenant à Jérusalem et on arrive au point culminant de l'évangile. Et le moment, c'est à ce moment-là, à Jérusalem, c'était un moment fort du calendrier juif, lorsqu'ils célèbrent la Pâque. Et Jérusalem, normalement, était une ville de 60 000, 80 000. Mais la fête de la Pâque ne pouvait être célébrée qu'à Jérusalem. Et donc, Jérusalem était remplie des gens. 300 000, 400 000, c'était comme la fête de la lumière ici à Lyon. C'était incroyable. Et donc, on va le lire maintenant, le premier texte. Merci, nous.
Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. » Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Merci, Noé. Donc, la fête de la Pâque était encore la plus ancienne fête juive. Et le terme Pâque vient de l'hébreu Pessa, qui signifie passer au-dessus. Et donc, elle célébrait la libération de l'esclavage en Égypte, la Pâque. Et lorsque Dieu a jugé les Égyptiens, les Israélites ont sacrifié un agneau et ont peint le sang sur leur porte, en fait, le seuil de leur porte. Et Dieu est passé au-dessus de leur maison. Et donc, le lendemain, ils étaient libres de partir. Ils ont célébré cette fête pendant plus de 1000 ans. Et ils célèbrent encore, les Juifs, ils célèbrent encore cette fête. C'est 3000 ans maintenant. Et donc, vous pouvez imaginer la scène dans vos têtes. Tout le monde était à Jérusalem. La foule, partout. Le trafic incroyable. Pas le klaxonner, mais les bruits. La poussière, l'attente, l'urgence, les bêlements des brebis, je ne sais pas combien de 1000 brebis ont été sacrifiés, mais il y avait beaucoup. Et vous pouvez imaginer les disciples là. Okay, les disciples. Et qu'est-ce que les disciples disent? Ils sont entourés par les gens. Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Avez-vous déjà eu du mal à trouver une table pour un resto à manger? Est-ce que vous avez vécu cette... Oh, c'est incroyable, ça. Jésus a accompli quelques miracles dans l'évangile de Marc, mais celui-ci est le miracle le plus moderne, je trouve. Trouver une table disponible dans un repos. Mais pourquoi ce texte est-il là? Pourquoi inclure ces détails, juste un peu élaborés, avec un homme, avec une cruche, avec un propriétaire de la salle à l'étage? Sur la manière dont ils ont trouvé. Pourquoi? Pour montrer à quel point tout cela était bien préparé. Vous voyez les mots qui sont répétés là? Les mots là? Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Puis, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? C'est là que vous nous préparez la Pâque. Ils ont trouvé tout comme il leur avait dit, ils préparèrent la Pâque. Jésus a tout préparé. Il a tout prévu. L'homme qui porte une cruche d'eau, le propriétaire, salle à l'étage, tout était prévu. Les préparatifs pour manger la Pâque ont été faits par Jésus. Est-ce que c'était la providence de Dieu, un miracle ou juste bien organisé en avance? Est-ce que Jésus connaissait des gens dans le coin? Bon, on ne sait pas. Mais verset 16, vous voyez, ils arrivaient à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Leur Pâque était bien préparée. Qu'est-ce que cela nous montre? Jésus a préparé notre pardon. Dieu a prévu cela. Non seulement en ce moment-là, mais 1000 ans auparavant, avec les Israélites en Égypte, cette fête s'était répétée chaque année. Et il a préparé le moment de la venue de Jésus. On comprend la planification, n'est-ce pas? Certains parmi nous, plus que d'autres, peut-être. Certains, peut-être c'est un gros mot, la planification, je ne sais pas. Mais il faut vivre, n'est-ce pas, dans le travail, la vie de famille, nos projets, nos amis qui vont peut-être chercher les enfants, avec qui on va manger ce soir. Il faut organiser tout cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez tous un emploi de temps? C'est ça, il faut vivre avec ça. Un calendrier, peut-être un planning. Est-ce que vous avez déjà planifié 2025? Qui a planifié 2025? Un peu. Ah oui? Ouais, c'est logique. OK, je vois certains jours. OK. Dieu a un calendrier de plus d'un an, n'est-ce pas? Il a un calendrier de 1000 ans. 1000 ans. Vous allez rigoler un peu ici, quand ça marche, peut-être. Allô? Est-ce que vous pouvez? Il me semble que c'est... Ah oui, c'est mon schéma préféré. Mais on voit que la Bible nous montre les plans de Dieu. Est-ce que vous voyez le plan? L'Exode, on est juste là. L'Exode qui était là est le début de la Pâque. Et chaque année, ils ont célébré la Pâque. Chaque année, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jésus, en fait. Et Dieu a planifié tout ça. Il a planifié, Jésus a prévu le lieu, la salle, tout ça. Dieu a planifié la Pâque. Et on peut planifier, on peut être organisé. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Nos échecs nous prennent toujours par surprise. N'est-ce pas? On planifie jamais nos regrets. On est surpris par notre culpabilité ou notre honte. Peut-être vous avez vécu un moment où vous prenez conscience de l'effet de votre colère sur vos amis ou vos parents ou vos sœurs, vos frères, vos enfants. Et ça ne nous prend pas surprise. Dieu connaît nos péchés. Et il le voit plus clairement que nous. Et lorsqu'on se rend compte de quelque chose, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu a planifié la Pâque. Il sait très bien nos péchés. Et c'est lui qui nous aide à le voir dans nos vies. Il nous aide à le voir. Il nous aide à voir ce qu'il fait ici pour y remédier. Et donc, si vous êtes un jour ébranlé par quelque chose que tu as fait, ça va. D'un côté, c'est une bonne chose parce que Dieu vous a aidé à le voir et il a également planifié, préparé ton pardon. Donc, ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode, c'est verset 22. Et ce que l'évangile de Marc fait, il rapporte ce qui est arrivé à Jésus, mais il élabore également avec soin, en fait. Et donc, dans ce chapitre, il entremêle ce qui se passe avec les disciples et leur faute. Jésus s'affile d'été, puis les disciples, puis Jésus. Et donc, il fait ça un peu comme un sandwich à plusieurs étapes. J'aime bien le sandwich. Cette semaine, on va se concentrer sur Jésus. Et donc, la semaine prochaine, ça va être sur les disciples. Mais cette semaine, on est vers 22. Et donc, merci Nour. Est-ce que tu peux avancer? Merci.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Merci, Nour. C'est un texte que les chrétiens lisent souvent dans l'Église. Et le repas de la Pâque était, et encore, en fait, un repas hautement liturgique, en fait. Donc, le plus jeune enfant posait des questions prescrites auxquelles le maître de la maison répondait pour expliquer la Pâque. Donc, il y avait de nombreux toasts et coupes et des éléments qui symbolisent les événements en Égypte, comme les herbes amères. Et donc, le petit enfant, ils ont dit, « Pourquoi il y a les herbes amères ici ?» Et le maître de la maison, il répondit, bah, « Ça nous rappelle l'amertume de l'esclavage. » Et puis l'enfant dit, « Pourquoi est-ce qu'il y a l'eau salée ?» Et le maître dit, « Parce que ça signifie les larmes et tout ça. » Et donc, c'est un repas incroyable, en fait. Parmi les Juifs, beaucoup de symbolisme, c'est excellent. Et l'agneau rôti leur rappelle que lorsque le jugement de Dieu s'est abattu sur Égypte, en fait, il y avait un endroit sûr où se tenir. Et c'était dans la maison qui avait le sang de l'agneau sur la porte, sur le seuil. Et les Israélites ont été épargnés. Dieu a passé au-dessus. Et c'était un signe. Passé, le sang a été versé ici. Et notre texte ne nous décrit pas tout le repas ici, mais à un moment précis, Jésus sort du script, en fait. C'était très liturgique, et Jésus, il fait l'impro, en fait. Et j'imagine les disciples étaient, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas leur truc, je sais pas. Ils ont déjà célébré le Pâques, je sais pas, 25, 30 fois. Et Jésus sort. Il se lève avec le pain, il prie, il donne aux disciples, ceux-ci aiment encore. Ils sont un peu, OK, mais ça, c'est pas l'autre. Et puis, il se lève avec la coupe, il remercie Dieu, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Et Jésus dit à ses disciples que ce que le sang sur le seuil de la porte était pour les Israélites, c'est maintenant sa mort pour ceux qui se confient en lui. Donc, c'est-à-dire être chrétien, c'est se tenir non pas sous le seuil de la porte, mais sous le seuil de Jésus. Donc c'était un moment bizarre peut-être, mais profond pour les disciples. Mais j'ai une question pour vous, et je voulais que vous discutiez de ces questions. Et la question est, pourquoi a-t-il utilisé le pain et le vin et non l'agneau? L'agneau était là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé l'agneau? Pourquoi est-ce qu'il utilisait le pain et le vin? Vous avez une minute. Parlez avec vos voisins et dis-moi après. Une minute, allez. OK. J'espère que vous avez eu des discussions fructueuses. Mais c'est une question intrigante, n'est-ce pas? A-t-il seulement pensé à cette idée, cette commémoration, et tout l'agneau était déjà mangé? Est-ce qu'il a pensé, en fait, on va le faire, en fait, oh, il n'y a pas d'agneau? Le pain, donne-moi le pain. On va se débrouiller avec, OK. Je ne crois pas. Rappelez-vous qu'il a tout planifié, ça. Il a tout préparé. Je crois que ce n'est pas ça. Il faut être modeste. Si le texte ne nous dit pas, on reste humble dans notre interprétation. Mais on peut au moins dire deux choses, n'est-ce pas? Première chose, tout comme le sang de l'agneau a sauvé le peuple, le sang de Jésus sauve son peuple. Et donc, les sacrifices d'agneau étaient toujours nécessaire dans le judaïsme. J'ai un texte comme le texte hébreu dit. Tout prêtre, il décrit ce qui se passait dans le judaïsme. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En effet, pas une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Encore une fois, vous voyez? Sacrifice ici, sacrifice, 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 chaque année, plusieurs fois par an, c'était le sacrifice, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, et puis tout est terminé. Il y a plus de sacrifices, il y a plus d'effusion de sang, il n'y a plus. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas d'autel dans l'Église maintenant. C'est pourquoi on n'appelle pas la Sainte Cène un sacrifice qui est fait par les prêtres. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et si on fait cela, on revient à l'Ancien Testament comme Jésus n'est pas venu. Mais en fait, non, on ne fait pas ça. n'est pas le passé. À sa mort, Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Il n'y a plus de sacrifice. Donc, il n'a donc pas utilisé l'agneau, parce que le sacrifice, c'est fini. C'est fini. Et la deuxième chose, le pain était une façon de dessiner le partage d'un repas dans la culture juive. Rompre le pain, c'était une phrase. Tout comme, qu'est-ce qu'on dit en français? Casser la croûte. On dit casser la croûte, n'est-ce pas? Et on a même casse-croûte, la bonne bouffe. OK. Donc on mange la casse-croûte, même s'il n'y a pas de croûte et pas de pain. C'est juste le nom pour ce qu'on fait là. Et c'est exactement comme on fait en Asie. En fait, on mange du riz, même s'il n'y a pas de riz dans le repas. C'est ce qu'on dit, on partage un repas ensemble. Et Jésus, ce qu'il fait ici, ce moment signifie donc la participation de ses disciples à ses côtés sur ce repas, dans ce repas. Bien que Jésus meure seul sur la croix, il partage les bénéfices de ce que Jésus accomplit. Et donc, il partage, il participe. Jésus nous fait participer à notre pardon. Il a planifié la Pâque et il a accompli. Il transforme la Pâque ici avec son corps et son sang et nous permet d'y participer. C'est pourquoi on aime bien célébrer la Pâque ici à l'Église. Ce n'est pas un repas pour les saints, c'est une table pour les pécheurs. Et ses disciples allaient bien tomber après. Ses disciples allaient trahir Jésus, mais quand même, ils partagent le repas avec eux. Et donc, c'est pour tous les chrétiens, pour les chrétiens qui ont cherché la repentance et la foi en Jésus. Et on va célébrer la Sainte-Cène un peu juste à la fin ici, j'espère avec profondeur, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que ce que Jésus a fait et on va participer ensemble dans ce que Jésus a fait. Donc, si vous êtes chrétien, parfois, il est facile de penser qu'on est sauvé par la grâce, mais on continue par les œuvres. Ça, c'est une pensée assez bien répandue. C'est notre effort. On doit remplir notre part du contrat avec Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas une pensée biblique, cette idée, en fait. Non. Cette façon de penser engendre le légalisme, l'arrogance et l'incertitude dans nos vies. Non, la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce et on continue par la grâce. C'est-à-dire, la marque d'un chrétien, c'est la repentance et la foi. La repentance, moi, je ne vis pas comme autonome dans ma vie. En fait, non, je dois me repentir de cette mentalité et je dois vivre avec Dieu et les autres. Et la repentance, c'est de dire, ça, c'était pas juste. La repentance, c'est changer d'attitude. Et la foi, c'est avoir confiance en Jésus, que le pardon qu'il nous donne est assez. Donc, la repentance, c'est la foi. C'est la marque d'un chrétien, mais c'est la marque d'un chrétien mature aussi. La repentance et la foi. Si on arrive à un moment donné dans l'avenir où on dit, OK, j'ai vu tous mes péchés, OK, ça va, je comprends maintenant, je comprends. Il n'y a rien à découvrir maintenant, je comprends tout. Non, désolé, ça, ce n'est pas le signe d'un chrétien mature, ça, c'est un très mauvais signe, en fait. Non, la marque d'un chrétien mature, c'est la repentance approfondie et la foi approfondie. Et l'humilité, ça engendre l'humilité et la reconnaissance pour notre Sauveur. Maintenant, notre troisième lecture. Merci, Nour. Est-ce que c'est là?
Il se rendit ensuite dans un endroit appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillé. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il se lana de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. »
Merci. Jésus a planifié notre pardon. Il nous fait y participer et maintenant, il nous montre qu'il a complètement payé le prix. Donc, il sort de la maison pour aller prier ailleurs, ce qui est totalement normal pour Jésus. Il a fait ça pendant l'évangile de Marc. Mais verset 33 n'est pas normal pour Jésus. Vous voyez là, verset 33, il dit, il commençait à être saisi de frayeur et d'angoisse. Pour la première fois dans les évangiles, Jésus semble perdre le contrôle. Tout au long de l'évangile, il n'a jamais semblé comme ça, en fait. Tout au long, il a gardé le contrôle dans les conflits avec les chefs religieux, avec la foule, les malades, les démons, ses disciples qui ne comprenaient rien tout au long de son ministère, dans les tempêtes. Il n'était jamais effrayé, jamais. Et puis ici, il est ébranlé, il est perturbé. En fait, les mots qu'ils utilisent là sont utilisés très peu souvent dans la Bible. C'est vraiment des mots forts, frayeur d'angoisse. Et puis il leur dit, verset 34, « Mon âme est triste à en mourir. » Donc, il dit, ce qu'il veut dire, c'est pas qu'il est triste à l'idée de mourir. Mais c'est la tristesse est tellement forte qu'il a l'impression que la tristesse va le tuer. Vous voyez, c'est à tel point c'est fort pour lui. Et ce texte, en fait, était délicat pour l'Église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours dit que Jésus était Dieu, mais ici, il est anxieux, effrayé, troublé. L'un des critiques de la foi chrétienne tout au début, par Julien, par exemple, dit que Jésus, il dit, est ici comme une personne misérable qui ne peut pas supporter son destin, même s'il est Dieu, selon vous, chrétiens. Pour lui, ce critique, c'est la preuve qu'il n'est pas Dieu. Et pour d'autres, c'est la preuve qu'il n'était même pas un grand homme. D'autres ont affronté la mort avec plus de dignité, comme Socrate, mais pas Jésus ici. Pourquoi? Il leur dit, restez ici éveillés. Mais les disciples étaient habitués à ce que Jésus veille sur eux, n'est-ce pas? C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux ou quelque chose comme ça, vous avez vu, il y a des petits hobbits, ils sont toujours là et autour du feu, ils s'endorment. Et puis, juste avant de s'endormir, ils voient toujours Gandalf ou un des autres qui reste éveillé, qui reste là pour garder leurs hommes. Et les disciples étaient un peu comme ça. Jésus est toujours en contrôle, il est toujours là. Mais ici, maintenant, c'est eux de rester ici éveillés. Et c'est l'échec total par les disciples. Mais ici, Jésus est dans le chagrin. Il est comme une obscurité profonde, écrasante, étouffante, qui l'engloutit. Peut-être vous en avez fait l'expérience à un moment dans votre vie où tu étais vraiment dans l'ombre profonde. Jésus le ressent ici. Mais si on comprend pourquoi il meurt, on comprendra son chagrin. Son chagrin, verset 36. Verset 36. Oh, non, pardon. Il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La prière de Jésus ne concerne pas le fait d'être sauvé de la mort, mais d'être sauvé de la coupe. est la source de cette image et l'image de la coupe de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament. Ésaïe 51, par exemple, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. » Et donc la coupe était une image de la sainte colère de Dieu et de son jugement sur la violence, l'abus, l'injustice, la cruauté, la perversion. Elle était, et Jésus était sur le point d'expérimenter le jugement de Dieu ici, sur le péché, et la culpabilité de nous tous dans sa mort sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait une relation parfaite avec Dieu, comme l'évangile de Marc, de Jean nous dit qu'il était avec Dieu, et il était Dieu, il était Dieu. Lui allait maintenant souffrir le jugement de Dieu. Nos péchés ont un impact, non seulement sur les autres, mais sur celui qui nous a créés. Et en fait, Dieu ne nous pardonne pas en fermant les yeux sur notre péché et en l'ignorant. En fait, personne pardonne comme ça. Tu peux pardonner quelqu'un seulement en prenant ce qu'ils ont fait sur toi-même, en toi-même. C'est la seule façon. Et ici, le pardon est coûteux pour celui contre lequel le mal a été fait. À la croix, on ne voit pas seulement l'amour de Dieu, mais aussi le sérieux avec lequel il considère notre péché. On voit quelque chose ici, le jugement de Dieu, le colère, l'abandonnement de Dieu, la rupture de la relation parfaite. C'est intense pour Jésus ici à ce moment-là. Mais Jésus a complètement payé le prix pour notre pardon. Et vous voyez, la bataille a été gagnée sur la croix pour nous parce que la bataille a été gagnée dans le jardin avant que Jésus ne prie. Et vous voyez, Jésus, il n'exige pas, il ne marchande pas avec Dieu, il ne pose pas des conditions. Il se soumet à la volonté de Dieu et il porte notre péché et notre jugement. Donc, j'ai que trois applications pour nous à la fin de ce texte. Ne sous-estime pas le prix de nos péchés. Ceux qui se débarrassent trop facilement du péché et de la culpabilité, en fait, ils sont un peu comme les disciples ici, un peu endormis, un peu inconscients. Si on est comme ça, en fait, on est un peu trop ignorant. En fait, on ne voit pas vraiment à quel point nous sommes faibles et imparfaits et à quel point notre péché affecte les autres. Tout comme moi avec mes sœurs, je ne voyais pas l'impact sur eux, je ne voyais pas l'impact sur mes parents. Et ça, c'est juste un petit exemple comme ça. Mais en fait, on a tous les exemples dans nos vies. On a eu un impact sur nos frères, nos sœurs, nos parents, tout ça. Et c'est un impact dur. Donc, ne soyez pas laxiste à ce sujet. Ne restez pas dans cette zone où on continue à pécher sans s'en soucier. Ne sous-estime pas le prix de nos péchés. Deuxième chose, ne surestime pas ta capacité de porter le poids de tes péchés. Et ça, c'est en particulier pour ceux qui ont une conscience sensible, qui se sentent toujours un peu coupables, toujours un peu, je sais pas, un peu torturés par ce qu'ils ont fait. Vous n'avez pas besoin de ressentir à nouveau cette culpabilité que Jésus a portée pour vous. Il l'a vraiment portée. Croyez-le. Entendez ici sa douleur et son chagrin. Il est là. Il est là dans un moment effrayé, l'angoisse. Et c'est comme il te voit. Et il dit, ça va. Je vais le faire. Je vais souffrir ça quand même pour vous. Et ça, c'est pour vous. Donc, ne surestime pas ta capacité de porter. Non, n'en fais pas l'expérience à nouveau. Acceptez-le. Il est bon de confronter nos échecs, c'est bon, mais laissez Jésus les assumer. Il éprouve cette profonde tristesse et douleur pour que vous n'ayez pas à le faire. Et la dernière chose, n'oublie jamais l'amour de Jésus pour toi. Si vous êtes prise avec des difficultés dans la vie, des circonstances difficiles, des fardeaux, des frustrations, peut-être c'est des incertitudes, peut-être c'est des soucis énormes dans vos vies. Et vous ne savez pas pourquoi Dieu vous permet de passer par cette chemin tortueux. Vous pouvez peut-être vous identifier à Jésus ici, n'est-ce pas? Jésus savait ce que c'était que d'être seul, en fait. Abandonné par ses ennemis, triste, effrayé. Mais il est avec nous dans la tristesse, dans les expériences les plus sévères et ne nous laisse pas seuls. Et la réponse, c'est toujours de se tourner vers Jésus, se tourner vers lui et de prier Dieu avec lui. Et on prie les choses réelles comme Jésus. Jésus ne se cache pas ici, n'est-ce pas? Il ne fait pas semblant, oui, ok, je vais le faire. Non, non, non. Il dit honnêtement ce qu'il pense. Il préférerait ne pas faire cela, mais il se soumet à sa volonté. Et c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on s'adresse à Jésus, à Dieu, on peut peut-être tout à fait honnêtement. Dans la Bible, il y a une différence énorme entre se plaindre de Dieu et se plaindre à Dieu. Vous voyez, c'est se plaindre de Dieu est toujours négatif dans la Bible. C'est toujours l'incrédulité, c'est la désobéissance, c'est toujours négatif. Mais la solution, ce n'est pas de se mettre en bouteille ou réprimer vos sentiments. Non, non, non. Il s'agit de porter nos plaintes à Dieu dans la prière. Et elles deviennent, en fait, le carburant de notre vie de prière. Si on va vraiment à Dieu avec tous nos soucis, nos problèmes, comme Jésus. On va prier maintenant et puis on va partager la Sainte Cène où on se souvient de Jésus et son sacrifice pour nous. Donc, priez avec moi. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous connais mieux que nous nous connaissons. Et tu connais nos fautes, nos échecs. Mais Seigneur, tu les as portés sur toi, sur la croix. Malgré l'angoisse, malgré la tristesse. Et Seigneur, merci pour ton amour pour nous, qui se renouvelle chaque jour, qui n'affaiblit pas, mais qui est toujours présent pour nous. Et Seigneur, aide-nous à vivre la vie avec repentance et foi devant toi. Pas dans la sensibilité excessive, mais avec une confiance en toi. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc, quand vous êtes prêts, venez, prenez la Sainte Cène. Et puis vous pouvez vous asseoir et vous pouvez partager la Sainte Cène quand vous voulez.